Et notre invité ce matin dans le 8h30, Christophe Castaner, bonjour.
Bonjour.
Député La République En Marche dans les Alpes-de-Provence, président du groupe LAREM à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, bien sûr, cette question géopolitique internationale, l'invasion russe en Ukraine. Est-ce que vous partagez l'avis de Delphine Bagary, l'autre députée des Alpes-de-Provence, qui indiquait « La France pourrait être davantage aux côtés de l'Ukraine si les entreprises cessaient leurs activités, les valeurs valent plus que les bénéfices ». Bien sûr, ça fait écho à certaines entreprises qui ont décidé de rester en Russie.
Vous savez, je crois que avant de chercher à faire des polémiques contre les entreprises françaises qui sont développées à l'international, il faut regarder ce que la France a fait. Je ne sais pas si Delphine Bagary était dans l'hémicycle la semaine dernière de l'Assemblée nationale quand nous avons reçu le président Zelensky. Mais le président Zelensky a souligné le leadership du président Emmanuel Macron, le leadership de la France qui, depuis le début de cette guerre en Ukraine, a fait en sorte que l'Europe parle d'une seule voix, que nous arrivions à nous caler systématiquement avec nos alliés, même les plus difficiles, comme la Chine. Et aujourd'hui, c'est cela que je regarde, c'est un engagement total en solidarité avec le peuple ukrainien, en dotation de moyens, y compris militaires, de l'Ukraine pour résister. Puis je salue aussi la résistance des forces ukrainiennes à l'image du président Zelensky. Et puis il y a la question des entreprises que je ne veux pas nier. Toutes les entreprises qui auraient un effet d'aide, entre guillemets, sur la Russie dans ses opérations de guerre, doivent cesser toute activité, en Russie notamment, et elles l'ont fait pour les entreprises françaises, n'ayez aucun doute sur le sujet. Puis il y a des entreprises comme Auchan, par exemple, qui sont au capital d'entreprises de distribution alimentaire auprès du peuple russe, qui embauchent 35 000 personnes. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on leur demanderait, d'un point de vue politique, de leur dire « Écoutez, fermez vos magasins, fermez les boutiques dans 35 000 et licenciez 35 000 personnes russes », sachant que de toute façon, elles ne sont présentes qu'au capital de ces entreprises. Et l'activité se poursuivrait, les entreprises françaises seraient parties et on aurait au fond le peuple russe avec lequel nous ne sommes pas en guerre qui serait première victime de cela. C'est un peu ça la réalité. Alors on peut se faire plaisir avec des grands mots, des appels au boycott. Mais l'essentiel, hélas, n'est pas là. L'essentiel, ce sont les bombes qui tombent sur des femmes, des hommes directement en Ukraine.
Alors, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Les équipes font campagne à l'image de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui était à vos côtés vendredi à Villeneuve pour une réunion. Daniel Spagnou, le maire de Sisteron, n'était pas présent, mais par la voix de son directeur de cabinet, il a émis le souhait d'accueillir la ministre dans la ville citadelle. Finalement, il n'y a qu'un pas avant son soutien à Emmanuel Macron.
Il a même dit dans son courrier et dans la petite note que dans le contexte que nous connaissons, y compris le contexte international que vous venez de souligner, il pensait qu'il ne fallait pas changer de capitaine ou de général, je reprends ces mots, et qu'il appelait à la réélection d'Emmanuel Macron. C'est un soutien important, vous savez, l'engagement historique de Daniel Spagnou, c'est un gaulliste, et dans cet esprit gaulliste, je crois qu'il a souhaité indiquer qu'il soutiendrait Emmanuel Macron, et c'est bien ainsi.
Renaud Muselier, Christian Estrosi, Arnaud Murgia, le maire de Briançon, vice-président du conseil départemental, d'autres élus des Alpes-de-Provence, aujourd'hui appellent à soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour des présidentielles. Où se situe la frontière exacte entre l'intime conviction politique et l'opportunisme politique?
Écoutez, je ne crois pas, vous citiez Daniel Spagnou par exemple, est-ce que vous pensez qu'il agit en termes d'opportunisme politique? Vous le connaissez assez.
J'ai cité d'autres noms.
Oui, mais on peut citer Renaud Muselier, je connais moins Arnaud Murgia. Je crois vraiment que nous avons réussi avec Emmanuel Macron à écrire une page qui se libère des bons vieux partis politiques. Et qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si vous êtes membre du Parti Socialiste, membre du LR Canal Historique. Vous avez vu que chez les LR, entre Éric Ciotti, qui est plus proche d'Éric Zemmour, qu'il ne l'aurait été de Xavier Bertrand et d'autres, ce jeu-là de tic-tac entre la droite et la gauche n'existe plus. Et donc il y a des valeurs, il y a des histoires, il y a des parcours personnels, mais il y a aujourd'hui la volonté de dépasser cela. C'est ce que nous avons marqué avec Emmanuel Macron, c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait par exemple quand il a nommé Édouard Philippe Premier ministre. Édouard Philippe n'avait pas fait campagne pour lui et pourtant il choisit un homme qui vient d'un camp différent pour rassembler. Je pense que notre pays a besoin de concorde et de rassemblement.
Alors, ces élections présidentielles, il y a un risque, c'est que l'électorat pense que tout est plié que Emmanuel Macron, de toute façon, sera élu. Il y a forcément le risque de voir moins en moins de personnes aller voter. Et puis, il y a aussi un autre risque que certains décrivent aujourd'hui comme une future crise sociale d'ampleur, c'est-à-dire que face à une élection pliée, les réformes ne seront pas approuvées et on risque peut-être un autre mouvement des Gilets jaunes ou en tout cas de colère populaire.
Vous savez, peut-être qu'à un moment donné, on pourrait aussi regarder l'avenir avec optimisme, avec envie, avec le plaisir de constater que nous avons un taux d'emploi dans notre pays historiquement haut et que nous pouvons nous fixer l'objectif du plein emploi en France. Il y a quelques années, ça aurait été imaginable que je puisse vous dire cela. Et puis, il y a ceux qui préfèrent cultiver l'inquiétude, l'angoisse, voire même qu'ils l'exploitent politiquement. Je n'appartiens pas à cette catégorie-là. Il y a des combats menés, notamment celui de la mobilisation pour que les Français aillent voter. Et donc je préfère mener ce combat plutôt que de commencer à anticiper d'éventuels problèmes qui pourraient venir plus tard. Faire de la politique, c'est avoir du courage. C'est aussi affronter des sujets quelquefois délicats, qui ne sont pas forcément populaires, mais c'est aussi comme ça qu'on prépare l'avenir.
Alors justement, il y a un problème qui est d'ores et déjà présent, c'est le pouvoir d'achat. C'est là où une grande partie des débats politiques vont se jouer, et notamment par rapport au prix à la pompe. Alors il y a cette baisse qui a été annoncée par le gouvernement de 15 centimes dès le 1er avril. Certains disent aujourd'hui c'est tout, est-ce qu'on ne peut pas agir ailleurs? On se souvient qu'en décembre 2018, Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité de faire varier le taux de fiscalité en fonction du prix du baril et de le faire baisser lorsqu'il est trop haut. On se souvient aussi qu'en 1990, Pierre Bérégovoy, le ministre des Finances, avait décidé de bloquer les prix des carburants. Est-ce que ça n'est pas possible aujourd'hui d'agir de la même façon ?
Là aussi, on peut regarder la globalité du problème. C'est celui du coût des énergies. Aujourd'hui, la France est le seul pays d'Europe où l'augmentation du prix de l'électricité est plafonnée à 4% sur l'année et l'augmentation du prix du gaz est à zéro. Je peux vous dire que si nous n'avions pas agi comme nous l'avons fait, nous serions dans la même situation que l'Italie ou l'Allemagne où on a des augmentations qui vont jusqu'à 50% sur l'électricité ou sur le gaz.
On ne peut pas faire plus question.
On peut toujours faire plus et dire qu'il y a de l'argent magique et qu'on peut faire en sorte que on trouve des milliards sans difficulté. On serait les seuls au monde à faire ça et on serait aussi des producteurs de pétrole et de gaz. La réalité, c'est que ça n'est pas le cas. Nous ne produisons pas aujourd'hui dans notre pays le pétrole et le gaz que nous consommons. Nous l'achetons à des pays étrangers et avant même la guerre en Ukraine, il y avait des conséquences sur le prix. Donc c'est peut-être l'enjeu de notre souveraineté nationale qui est posé. C'est l'enjeu du développement d'une filière d'énergie nucléaire. Nous devons maintenir à niveau la nôtre et nous devons aller plus loin. Ça fait partie aussi des engagements du candidat Emmanuel Macron. On se fixe un objectif à 2050 d'avoir une baisse significative de nos consommations d'énergie de 40%, d'avoir une montée en puissance des énergies renouvelables et d'avoir un parc nucléaire qui soit à niveau. C'est préparer l'avenir. On a fait en sorte aussi, et vous savez que la meilleure façon de ne pas dépenser, c'est d'économiser, qu'il y ait 1 million de Français qui puissent changer de modèle de voiture pour aller vers moins de dépendance vis-à-vis de l'essence et du pétrole. 1 million. 1 million étant dans nos départements alpins, on sait l'importance de la voiture. De la même façon, 1 million de foyers ont pu être rénovés sur la question thermique. Et nous devons fixer des objectifs plus ambitieux encore. Nous voulons porter cela à 700 000 par an pour que dans le quinquennat, on ait pu supprimer ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Et puis, il y a l'aide directe qui est passée d'ailleurs non pas de 15 centimes, mais à 18 centimes à partir de vendredi en baisse sur l'essence. Le Brent, aujourd'hui, cette semaine, connaît une baisse. Souhaitons qu'elle se poursuive. Ça n'est pas acquis. Et nous devons, sur ces sujets, être vigilants et de la même façon, aider aussi les professionnels qui sont des grands rouleurs. Nous l'avons fait avec une revalorisation de l'indemnité kilométrique. Nous devons maintenir ce dispositif et aller plus loin. Et nous irons plus loin si c'est nécessaire.
Faire varier la fiscalité, c'est encore envisagé. On sait qu'il y a deux impôts qui sont appliqués sur les carburants. Il y a la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, et la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire varier ces taxes? C'est ce qui est demandé aujourd'hui.
Ah ben je vous donne deux indications. D'abord, la TICPE est plafonnée, donc elle ne bouge pas quand le prix augmente. Il n'y a pas de recette pour l'État quand le prix augmente. Et puis la TVA. La TVA, c'est une toute petite partie. Alors j'ai bien noté que certains candidats disaient « on va faire baisser la TVA ». Les mesures du gouvernement pour empêcher l'augmentation du prix de l'électricité, du prix du gaz et du prix de l'essence avec le chèque de 18 centimes par litre dont je parle, vont coûter à peu près 25 milliards. Il faut savoir que l'augmentation de la TVA dont on parle, c'est 5,5 milliards. Et donc là aussi, On peut faire croire et dire n'importe quoi. Madame Le Pen le fait à chacune de ses interventions médiatiques ou dans les meetings. La réalité, c'est que l'augmentation du prix dès lors qu'il y a la TVA génère une recette pour l'État. Cette recette, c'est 5,5 milliards. L'engagement de l'État pour empêcher l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité et diminuer le prix de l'essence, c'est 25 milliards. C'est cela la réalité.
Alors, parlons de cette mesure qui ne fait pas l'unanimité, c'est le report de l'âge de la retraite à 65 ans qui a été présenté par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous défendez cette mesure, mais en novembre 2020, la majorité sénatoriale de droite et du centre avait défendu l'idée de travailler plus longtemps pour atteindre l'équilibre des régimes de retraite en 2030. Et à l'époque, vous l'aviez dénoncé. Qu'est-ce qui a changé entre novembre 2020 et mars 2022 ?
Ce qui a changé, c'est que nous proposons une réforme globale qui prévoit par exemple que le minimum de pension soit demain à 1100 euros pour que chacun qui ait travaillé tout au long de sa vie puisse avoir une retraite digne. Ça n'était pas dans la proposition sénatoriale. Et puis nous proposons aussi la fin des régimes spéciaux parce que je pense que c'est une mesure de justice avec laquelle nous devrions nous retrouver, y compris avec la gauche qui devrait être à nos côtés, parce qu'il ne me paraît pas logique aujourd'hui qu'un conducteur de métro à Paris puisse revendiquer de partir à la retraite à 52 ans, quand un commerçant dans les Hautes-Alpes, en zone de montagne, ne peut pas avoir ce droit-là. Et donc, c'est cette double, triple dimension, la revalorisation des pensions, la fin des régimes spéciaux, et effectivement, nous devons travailler plus. Et l'objectif de cette réforme n'est pas seulement, j'assume de vous le dire, d'équilibrer le régime des retraites. Nous en avons besoin pour l'équilibrer, mais c'est aussi de financer l'ensemble de nos mesures de protection sociale. Vous savez, si on veut sauver le régime de retraite et maintenir un haut niveau de prestations sociales, toute la première partie de notre entretien visait à faire des dépenses, il faut aussi des recettes. Et donc, il y a trois systèmes assez simples. Un, c'est d'augmenter les impôts. Nous ne le voulons pas et nous voulons continuer à les baisser. Nous les avons baissés de 52 milliards sous ce quinquennat. Jamais personne n'en a fait autant. Mais nous voulons maintenir cela avec une baisse supplémentaire de 15 milliards sur les particuliers. L'autre mesure consiste à baisser les droits et donc à baisser les pensions. Nous ne le souhaitons pas non plus. Et la troisième mesure consiste à travailler plus, et je pense que notre société peut aujourd'hui travailler plus.
Vous avez été interpellé sur ce sujet par l'ancien sénateur des Alpes-de-Provence, Claude Domézel, dans une tribune sur Marianne. Ce qu'il vous dit, c'est « S'agissant des régimes spéciaux, votre souhait de les voir radicalement disparaître ne s'appuie pas sur des motifs clairs et probants. Et puis, plutôt que la solution d'augmenter l'âge de départ à la retraite, il est indispensable de rechercher d'autres sources de financement pérennes. »
Oui, on peut aussi augmenter les impôts, il a raison, mais peut-être qu'on peut aussi réformer les régimes spéciaux, à commencer par celui des sénateurs.
Bon, c'est le premier régime spécial qui verra sa fin.
En réalité, non, parce que autant nous avons le pouvoir de le faire sur les députés, et nous l'avons fait aujourd'hui, la retraite des députés est alignée sur celle des Français, mais les sénateurs, c'est eux-mêmes qui votent. Et Claude Demezel a été sénateur pendant longtemps, c'est eux-mêmes qui votent leur propre régime, et nous n'avons pas le droit constitutionnellement d'organiser les chambres de l'Assemblée ou du Sénat. Et donc le Sénat n'a pas souhaité modifier son régime de retraite et a gardé un régime exorbitant du droit commun. Mais c'est une petite provocation. Je lui ai répondu à Claude Demezel par écrit, mais je n'ai pas publié ça sur les blogs de Marianne. Et je pense qu'à un moment donné, avoir le sens de la responsabilité collective et individuelle, c'est toujours mieux que de donner des leçons.
Alors Christophe Castaner, il y a aujourd'hui l'inquiétude d'un nouvel épisode de gel sur les exploitations, qu'elles soient eau alpine ou basalpine. On se souvient qu'il y avait eu un épisode de gelée noire il y a quelques années et un régime d'indemnisation qui avait été mis en place par le gouvernement. Peut-on dire aujourd'hui que ce levier pourra être à nouveau activé en cas d'un nouvel épisode de gel massif ?
D'abord, effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il y a un an, il y a eu un gel massif sur l'ensemble du territoire national et chez nous, à la fois les viticulteurs ou les arboriculteurs se souviennent combien il a été douloureux. L'État s'est mobilisé, nous avons dégagé près de 1 milliard d'euros de solidarité nationale. Mais ça ne suffisait pas que d'intervenir comme ça au coup par coup et on sait bien les risques qui augmentent avec le réchauffement climatique. Le président de la République est venu dans nos Alpes d'Haute-Provence, à Corbière, annoncer un nouveau régime de précaution et d'assurance de nos producteurs et de nos paysans. Et c'est un régime que nous avons construit avec la profession agricole. Ce régime devait faire l'objet d'une loi. La loi a été votée, adoptée, mais n'entrera en vigueur qu'en 2022. Donc, je vais vous répondre très clairement. S'il y avait à nouveau un épisode, il y aurait de nouveau la solidarité nationale. Et dès l'année prochaine, nous serons dans ce régime de solidarité nationale sur lequel l'État mobilise 600 millions d'euros par an pour accompagner nos exploitants.
Urgence de Manosque, on va encore vers des nuits de fermeture. À quand une solution pérenne qui puisse être trouvée ?
D'abord, vous soulevez un vrai problème. On a près de 20 nuits de fermeture depuis le début de l'année et nous savons combien les urgences sont absolument indispensables. Alors d'abord, toutes les nuits, même quand les urgences de Manosque sont fermées, le SMUR assure les urgences vitales à partir de Manosque. Ensuite, je voudrais rassurer les manosquins, il n'y a aucune volonté de fermer le service des urgences. Mais on a un service qui est fragilisé par deux choses. D'abord, la Covid, qui fait qu'aujourd'hui, on a des tensions dans l'ensemble de notre système hospitalier et aussi à l'hôpital de Manosque. Et ensuite, des problèmes de recrutement. Les budgets sont là, ce sont les médecins urgentistes qui manquent partout en France. Nous avons supprimé le numerus clausus, il avait été créé en 1971, il n'avait jamais été supprimé. Nous l'avons supprimé pour former plus de médecins spécialistes, mais il faut 10 ans pour former des médecins. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment saluer le combat de la direction de l'hôpital en lien avec son administration, l'Agence régionale de santé, pour tenter de trouver les solutions. Je sais qu'ils se battent tous les jours pour cela, pour diminuer les conséquences au maximum. Je sais que la mairie de Manosque, les collectivités locales se battent aussi pour être plus attractifs, pour créer les conditions d'un bon accueil des médecins en formation ou en activité. Nous allons nous en sortir parce qu'il y a la volonté de préserver, de sauver les urgences de Manosque, mais il faut des femmes et des hommes. Et si ceux qui ont créé le numerus clausus en 1971 l'avaient corrigé ou supprimé, comme nous l'avons fait il y a 2 ans, nous ne serions peut-être pas dans cette situation.
Dernière question, Christophe Castaner. Vous l'avez dit il y a quelques jours, 80% des députés du groupe La République En Marche comptent se représenter pour les législatives, dont vous. C'est une question.
Ah, le dont vous parlez.
Oh, je peux l'affirmer, dont vous.
Non, mais d'abord, je vous confirme ma volonté, mais je fais les choses dans l'ordre. L'ordre, c'est l'élection présidentielle. Vous savez, mon engagement aux côtés d'Emmanuel Macron, et je suis le plus souvent possible dans mes Alpes de Haute-Provence, mais je suis un peu partout mobilisé auprès du candidat Emmanuel Macron et auprès des différents responsables un peu partout en France.
Et ensuite, vous serez donc, vous officialiserez votre candidature pour les législatives.
Oui, le moment venu, mais je souhaite évidemment continuer mon engagement pour les Alpes de Haute-Provence.
Merci beaucoup, Christophe Castaner, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc, vous êtes député La République En Marche des Alpes-de-Haute-Provence. Merci.
Merci beaucoup.